À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Claudine Monteil, je suis femme de lettres, historienne, ancienne diplomate et féministe.
Cinquième épisode, Femmes, n'oubliez jamais. Bonsoir Claudine Monteil.
Bonsoir Caroline Brouet.
Je crois qu'en effet, on peut comprendre au titre de ce cinquième épisode de quoi nous allons parler aujourd'hui, à savoir les combats actuels, le féminisme et son évolution, les engagements qui sont les vôtres aujourd'hui, en commençant par une phrase qu'on doit à Simone de Beauvoir, qui est sans doute la phrase la plus célèbre de Simone de Beauvoir, qui a circulé énormément, qui est « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne seront jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Peut-être faut-il rendre à César ce qui appartient à César. C'était une phrase de Simone de Beauvoir, mais en fait, elle ne l'a jamais écrite. Elle vous l'a dite à vous, Claudine Monteil, cette phrase.
Oui, Simone.
Dans quelles circonstances ?
Alors, c'était en 1974. Nous avons organisé une fête à la cartoucherie de Vincennes, une fête des femmes, où nous avons eu plusieurs milliers de personnes qui sont venues. Ça avait été un succès total. Et le lendemain, j'arrive chez elle, je préparais à ce moment-là, j'écrivais déjà quelque chose sur elle, un travail sur elle, et j'arrive tout excitée. Et je lui dis « Simone, Simone, vous avez vu le monde qu'il y avait hier ? Simone, nous avons gagné !» À propos de la campagne, de la manière sur l'avortement. Et elle est restée très figée, et puis elle m'a dit « Oui, bien sûr, oui, on a peut-être gagné, mais enfin c'est temporairement, nous n'avons pas gagné en fait. » Et là, elle m'a dit cette phrase, mais non, et elle m'a dit « Claudine, votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. » Alors vous savez, j'avais 24 ans à ce moment-là, puisque 4 années étaient passées depuis le début de la campagne sur l'avortement, votre enthousiasme de jeunesse, je me suis retrouvée absolument liquéfiée, réfrigérée, je ne bougeais plus, j'étais complètement déprimée. Et pourtant, comme elle avait raison. Et cette phrase, je l'ai écrite dans certains de mes livres, je témoigne, mais je la raconte toujours aux jeunes générations, parce que malheureusement, la vie m'a prouvé qu'elle avait tellement raison. Et quand nous voyons ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe aux États-Unis ou en Pologne, notamment, eh bien, sa phrase se confirme en permanence.
Aux États-Unis, en 2022, la Cour suprême américaine est parvenue, après 50 ans de bataille, à enterrer en 2022 l'arrêt Roe versus Wade, ce qui donne la permission à chaque État maintenant de décider si oui ou non ils permettront l'avortement. En même temps, le hasard veut, Claudine Monteil, que le moment où nous enregistrons, même le jour où nous enregistrons cette dernière émission, est au lendemain du vote par le Sénat d'une possible constitutionnalisation de la liberté des femmes d'avorter. Alors quand on voit la régression d'un côté, les avancées de l'autre, est-ce que vous avez envie d'être optimiste ? Est-ce que vous avez envie d'être pessimiste aujourd'hui ?
J'ai envie d'être prudente et en même temps de pousser la jeunesse à être optimiste. Il faut se battre en permanence, mais ce que je dis aux jeunes, c'est nous avons mis 5 ans de bataille pour que le gouvernement français, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, qui a joué un rôle dans la modernisation du pays, il ne faut pas l'oublier, il faut le reconnaître, eh bien, nous avons mis 5 ans quand même de lutte sans arrêt pour qu'enfin Simone Veil puisse aller à l'Assemblée et, avec devant autant d'hommes, proposer cette nouvelle loi, la défendre et la faire passer avec le courage que l'on sait. Mais, en réalité, il faut se battre en permanence. Cependant, l'histoire qui vient de se passer au Sénat, eh bien, je vous le dis très franchement, ces jeunes femmes qui se sont battues au Sénat, à l'Assemblée nationale, pour changer, pour faire inscrire dans la Constitution la liberté des femmes à avoir un avortement, dépassent mes rêves. C'est-à-dire que pour ma génération, c'était même pas concevable. Et c'est ça que je trouve extraordinaire avec chaque génération. Je dis toujours, mon bonheur, ce sont les jeunes générations de féministes, garçons et filles. Et n'oublions pas les garçons, car il y a aussi des jeunes hommes féministes et qui soutiennent leurs sœurs, leurs copines, leurs amies, leurs tantes, leurs mères. Parce qu'aussi, les femmes osent plus facilement raconter quelles ont été leurs vies. Je veux dire par là que maintenant, des femmes de tout milieu social racontent comment la vie est dure. Et nous le voyons sur chaque sujet. En même temps, il ne faut jamais oublier que le patriarcat, et pardonnez-moi de le dire ainsi, mais les religions, veulent contrôler les femmes. Ce qui tient dans les religions, ce qui tient dans l'oppression, c'est le contrôle des femmes. Il suffit de voir ce qui se passe en Iran et en Afghanistan, et qui atteint des proportions absolument horribles. Et je suis très inquiète sur un point, puisque vous me demandez si je suis optimiste ou pessimiste. Je suis très inquiète sur un point. Sur le plan géopolitique, des matières premières, la plupart des matières premières dans le monde sont déjà cooptées. C'est-à-dire qu'il y a déjà des multinationales, il y a déjà des États qui les contrôlent ou qui les rachètent. Or, quand vous rachetez dans un pays qui n'est pas une vraie démocratie, il vaut bien que vous négociez quelque chose en échange d'obtenir le contrat. Eh bien, ce sur quoi vous lâchez, c'est sur les femmes et sur les droits des femmes. Donc, comme la terre est comme un gâteau, et que ce gâteau est déjà quasiment entièrement partagé, que d'autre part, la lutte pour l'accès aux matières premières va être encore plus terrible au XXIe siècle, eh bien, je dis toujours, plus le prix des matières premières augmente, plus les droits des femmes sont en danger. Donc, ne relâchons jamais.
Vigilance, vigilance.
Vigilance, vigilance.
Comment avez-vous accueilli, Claudine Monteil, cette formidable vague, qui est la vague MeToo, qui a déferlé après 2017?
La vague MeToo de 2017 me laisse une fois de plus confiante dans les jeunes générations. Je veux dire par là que c'est magnifique. La vague MeToo, elle est magnifique. Je ne pensais jamais la voir. Et pour tout vous dire, nous ne l'avions pas non plus imaginé, parce que nous étions dans les urgences sur l'avortement. Donc nous ne l'avions pas imaginé, nous n'avions pas la capacité non plus physique, nous étions très peu nombreuses, ne l'oublions pas. Donc, je pense, et je le dis toujours aux jeunes générations, il faut être sur les réseaux sociaux. Si vous voulez changer le monde, soyez sur les réseaux sociaux.
Ce sont les nouveaux modes d'action aujourd'hui.
Ben bien sûr. Je veux dire par là que MeToo n'aurait pas eu ce déferlement s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. C'est un hashtag MeToo. Il y a à la fois les réseaux sociaux, une nouvelle génération qui n'a pas envie de vivre comme vivait leur grand-mère. Mais je dis toujours, certes, il y a des insultes, il y a des harcèlements sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. C'est une force extraordinaire. Et Simone de Beauvoir, s'il n'y avait pas eu Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, qu'est-ce que nous aurions pu faire? Je veux dire par là, il faut être unis. Et se soutenir moralement, ça passe par les réseaux sociaux. Moi, je vois par exemple, sur la question de l'avortement, du Sénat, etc., depuis, nous sommes plusieurs sur Twitter, depuis hier, nous avons absolument inondé toutes les demandes.
Hier, c'était donc, je le rappelle, avant le vote du Sénat. Hein.
Hier, avant le vote du Sénat.
Sur la possible constitution.
Nous avons monté une opération.
Qui est devenue la liberté d'avorter.
Eh bien, nous avons monté une opération toute la journée de pression sur les sénateurs et les sénatrices sur cette question. Et nous avons littéralement envahi les médias en France, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Nous avons envahi.
Vous dites, Claudine Monteil, que c'est une révolution déjà, MeToo, et que vous la jugez dans son ensemble magnifique. Est-ce que pour vous, il faut regarder loin, c'est-à-dire que, de fait, quand une révolution commence, nécessairement, il y a des effets, des dérives, des effets collatéraux, des choses qui peuvent se passer individuellement, qui sont graves, qui ont des effets graves. Est-ce que vous dites, pas de révolution sans radicalité? Il faut regarder le bout c'est la libération des femmes, et donc on accepte que certains tombent les uns derrière les autres sur les bas-côtés.
Ce que le MLF a réussi de faire, c'est la radicalité, c'est par la radicalité. Ce que je trouve formidable maintenant, c'est qu'il n'y a pas seulement la radicalité. Je pense qu'il faut penser, bien sûr, à la libération des femmes, mais il ne faut pas sous-estimer. Je vois que des femmes qui n'ont jamais milité vraiment, mais au sein de leurs entreprises, au sein de leur milieu professionnel, elles s'engagent pour les droits des femmes. Au sein, les femmes agricultrices s'engagent. On les rencontrait un certain nombre. Il y a des femmes juristes. Il faut s'engager partout. Et je ne juge pas si les femmes ne sont pas au degré de lutte radical. Mais l'esprit doit rester celui de la radicalité. Par contre, qu'il soit partout, c'est très bien. Quand je vois, par exemple, qu'il y a même des femmes dans l'Église catholique qui ont créé un mouvement pour que les femmes soient mieux considérées, qui s'appelle le mouvement La Jupe, elles sont extrêmement courageuses, eh bien, je me dis tant mieux, parce que les hommes prêtres seront bien obligés un jour de les écouter. Voilà, donc je pense que ça doit aller partout, ça doit s'infiltrer, et ne pas oublier les réseaux sociaux. C'est un outil que vous pouvez utiliser entre vous toutes. Ne le laissez pas aux autres.
Vous allez beaucoup, hein, comme d'ailleurs Simone de Beauvoir le faisait, vous allez beaucoup au devant des jeunes femmes. Vous vous engagez aussi à votre façon, vous poursuivez votre combat, Claudine Montaille. Vous êtes présidente notamment de Femmes Monde. Femme au pluriel, monde au singulier. Vous êtes membre du Conseil national des femmes françaises et vous êtes la marraine d'une association que vous aimez beaucoup qui s'appelle Feminist in the City.
Alors, ce sont des jeunes femmes issues de Sciences Po qui ont créé, qui ont décidé d'organiser des visites d'abord dans Paris, puis ensuite elles organisent dans plusieurs villes en province, des visites montrant que des réalisations de femmes au sein d'une ville et redonnant la lumière à un certain nombre de femmes qui ont parfois été oubliées, ou en tout cas de l'histoire des femmes. Et elles le font en français et en anglais, ce qui fait qu'elles ont eu, avant la pandémie, bien sûr la pandémie a ralenti un peu sur le moment, mais avant la pandémie, elles avaient des milliers de personnes abonnées, et pendant la pandémie, elles ont fait des exposés historiques absolument formidables sur Zoom. Pour vous donner un exemple, simplement, elles ont fait une heure de manière très vivante avec des photos extraordinaires sur les femmes, les féministes coréennes depuis le XIIe siècle, les féministes chinoises depuis le XIIe siècle, les féministes japonaises depuis le XIIe siècle, des exemples où on se rend compte qu'on ne connaît rien et de manière très vivante. Et donc Julie Maranger, qui est présidente, elle a reçu déjà des prix pour tout son dynamisme, parce que l'un des objectifs de ma vie, c'est vraiment de redonner lumière, visibilité à des femmes extraordinaires. Je pense notamment à la grande dame de l'indépendance de l'Inde, Hansa Mehta. Hansa Mehta, son nom est inconnu, y compris de nombreux Indiens et Indiennes. Et pourtant, c'est elle qui, auprès de Gandhi, a été la grande dame de l'indépendance de l'Inde, a présidé le comité de rédaction de la Constitution, a levé le drapeau indien au nom des femmes indiennes, mais surtout, c'est elle qui s'est battue pendant 2 ans au comité de rédaction de la Déclaration des droits dits de l'homme, moi je l'appelle les droits humains, eh bien, c'est elle qui a exigé qu'on ne mette pas tous les hommes à l'article 1, tous les hommes sont libres, etc. C'est elle qui a exigé que ce soit tous les êtres humains, car sinon les femmes indiennes n'auraient pas été comprises dans cette déclaration et toutes les femmes n'auraient pas été comprises. Elle a mis 6 mois de négociation avec Eleanor Roosevelt, la grande dame de ancienne première dame des États-Unis, grande défenseuse des droits humains et contre le racisme. 6 mois de négociations supplémentaires. Elle s'est occupée des femmes indiennes jusqu'à sa mort. Elle a été ambassadrice à l'UNESCO. On ne parle jamais d'elle. Et pour moi, Hansa Mehta, ce qu'elle a fait pour les femmes du monde entier, eh bien, nous devrions la remercier tous les ans pour l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits dits de l'homme.
Et faire connaître des femmes exceptionnelles, oubliées de l'histoire, c'est ce que vous avez entrepris de faire dans un livre paru en 2011, intitulé « Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui », où on en trouve comme ça un certain nombre, mais pas seulement des femmes très connues ou qui ont eu un rôle public dans l'histoire. Il y a aussi des pâtissières, des enseignantes, des économistes, des gynécologues, des agricultrices, elles sont très nombreuses. Il y en a deux en particulier. Je crois qu'elles sont des féministes américaines, pionnières pour notre santé, Claudine Monteil. C'est Carole Donner et Lorraine Rothman. Pouvez-vous nous en parler?
Alors, c'est justement les années 70.
On y revient toujours.
On y revient toujours.
Fondatrice, en tout cas pour vous.
Je ne veux pas jouer à l'ancienne combattante, mais on y revient toujours. Mais Carole Donner et Lorraine Rothman se sont rendues compte. Carole Donner, elle vient d'un milieu pauvre blanc de l'Oklahoma. Elle est mère de 6 enfants et son premier mari est mort de tuberculose, faute de soins car il n'avait pas les moyens pour payer l'hôpital. Donc, vous voyez d'où elle vient. elle épouse un Mexicain-Américain et surtout, après la guerre du Vietnam, véritablement, elle est dans une prise de conscience. Mais comment est-ce qu'on peut se soigner puisqu'elle-même n'a pas les moyens de se soigner et de soigner sa famille. Et c'est comme ça qu'elle va se battre pour que les femmes puissent avoir accès à une meilleure connaissance de leur corps, à une meilleure gynécologie. Et elle a monté avec quelques femmes. Elles ont, c'était une période extraordinaire. La Californie est souvent en avance de 10 ou 20 ans sur l'Europe. Et donc, elles ont monté comme ça un petit groupe. Elles ont ouvert une clinique avec quelques médecins, quelques infirmières, où pour payer pour 20 dollars, enfin l'équivalent de 20 euros aujourd'hui, elles ont permettait toute la journée d'apprendre à palper les seins, à connaître leur corps avec le spéculum en plastique, la gynécologie parallèle, avoir des avortements dans les meilleures conditions, des IVG dans les meilleures conditions. Et donc, elles ont eu un succès fou à Los Angeles. Elles avaient à la fois les femmes les plus pauvres des quartiers les plus pauvres et les femmes de Beverly Hills et de Hollywood. C'était vraiment des dieux extraordinaires et elles ont fait avancer comme ça toute la notion de gynécologie, gynécologie parallèle, mieux connaître son corps. Et puis, Carol Downer avait été attaquée en justice par des médecins qui l'accusaient de pratiquer de la médecine parallèle, et donc alors qu'elle n'était pas médecin, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée face à des médecins, des avocats payés très cher et qu'elle risquait la prison. Et elle a pris une avocate féministe et Carol Downer, très calmement, a raconté sa vie. Elle a simplement raconté sa vie, c'est-à-dire 6 enfants, ne pouvant pas leur donner une vraie protection de santé, etc. Elle a expliqué comment c'était pas illégal, que c'était au contraire très humaniste ce qu'elle faisait. Et le jury l'a déclarée innocente, l'a innocentée intégralement. Les médias s'en sont emparés. Et quand Life, le magazine Life, qui est un magazine genre Paris Match, qui n'est pas un magazine d'extrême gauche, a publié le numéro spécial des femmes les plus importantes des États-Unis depuis la fondation des États-Unis, ils ont mis une photo de Carol Downer. Et elle est devenue une inspiration, présidente d'une fédération. Elle est devenue une inspiration, elle est allée à travers l'Europe. Et malheureusement, ce sont ces cliniques-là qui ont été plastiquées les unes après les autres, et des menaces de mort et des menaces. Mais maintenant, il y a encore des cliniques qui existent. Mais c'est pour dire que c'est une femme à laquelle nous devons beaucoup, car la santé des femmes, c'est elle vraiment qui a lancé ça avec Lauren Rossman.
Alors je n'oublie pas, Claudine Monteil, que vous êtes fille de scientifique, c'est même par là que nous avons commencé. D'une chimiste et d'un mathématicien. Et alors j'ai regardé, parce qu'il y a des prix hein, dans les sciences, en particulier dans les mathématiques, il y a la médaille Fields qu'a eu de votre père, il y a le prix Abel, désormais, qu'a eu votre père, c'était même le premier à l'avoir obtenu. Alors j'ai regardé entre 2011, la date de parution de votre livre Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui, si des mathématiciennes avaient obtenu la médaille Fields, parce qu'elles n'étaient pas nombreuses, elles étaient même zéro à l'avoir obtenue avant. Eh bien figurez-vous que oui, deux femmes mathématiciennes ont reçu la médaille Fields, une en 2014, c'était une iranienne, elle est décédée depuis, Mariam Mirzakhani, et en 2022, Marina Vyazovska, qui est une ukrainienne, qui l'a obtenue. Progrès en la matière.
Oui, ça a été une très grande joie, le choix de ces deux femmes mathématiciennes médaille Fields. C'est très triste pour la jeune iranienne d'être décédée d'un cancer si jeune. Mais je voudrais dire quelque chose sur l'ukrainienne. En fait, elle n'a pas eu la médaille Fields parce qu'elle était ukrainienne. Je voudrais vraiment spécifier parce que c'est tombé au moment du début de la guerre en Ukraine. Donc certains m'ont posé la question. Non, elle était prévue pour être médaille Fields, paraît-il, 4 ans auparavant, puisque la médaille Fields est décernée tous les 4 ans. Donc, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine actuelle. Ça n'a à voir qu'avec ses qualités et son talent. Et je dois dire que c'est quand même un très grand encouragement. Et mon père me dit régulièrement que dans les colloques, il voit de plus en plus de jeunes mathématiciennes intervenir et savoir défendre leur dossier. Enfin, il y a quand même un début de progression.
Votre père, Jean-Pierre Serre, qui est encore vivant au moment où nous enregistrons ces émissions, il a 96 ans et on lui souhaite encore une longue vie, bien évidemment. Claudine Monteil, je n'oublie pas non plus que vous êtes diplomate, vous êtes, en tous les cas, vous avez fait votre carrière dans la diplomatie, et que donc, dans la diplomatie, le langage est très important. Le langage a progressé, puisque quand vous avez commencé votre carrière dans la diplomatie, on vous appelait pas madame.
C'est-à-dire qu'on m'appelait madame par politesse, bien sûr, mais on commençait toujours les réunions, si j'étais la seule femme, messieurs. Parfois, on m'appelait monsieur. Et parfois, on ne me serrait pas la main.
Le langage a progressé.
Le langage a totalement changé. Et je voudrais dire quand même, puisque vous m'avez demandé sur l'optimisme, je voudrais dire que le lieu qui a le plus progressé, à mon avis, l'un des lieux qui a le plus progressé sur les droits des femmes, la visibilité des femmes, c'est le Quai d'Orsay. Je m'explique. En 79, on ne prenait même pas les candidatures des normaliennes agrégées, docteurs qui préparaient un doctorat de sciences pour être attachées scientifiques, attachées culturelles. On ne prenait même pas leurs candidatures. Ma mère est allée chez le Premier ministre, au cabinet du Premier ministre, et a fait régler ça rapidement. Mais c'est pour vous dire où on en était. Il n'y avait quasiment pas de femmes ambassadeurs, je dis ambassadeurs, ambassadrices, en 79. Il y a une véritable politique depuis 20 ans de nommer des femmes ambassadrices, tout simplement parce qu'elles le méritent, qu'elles ont la carrière, qu'elles ont fait le travail qui nécessitait. Et il y a un événement dont on n'a quasiment pas parlé en 2021 et 2022, c'est quand même que le président de la République a nommé pour la première fois dans l'histoire de France, il a élevé à la dignité d'ambassadeur de France, donc d'ambassadrice de France, qui est quand même l'équivalent de maréchal, hein, eh bien trois femmes, dont Catherine Colonna, qui est ministre actuelle. Mais il n'y a pas que Catherine Colonna, il y en a deux autres. Donc c'est pour vous dire, il y a Sylvie Berman et il y a également Marie-France Descôtes, qui est la première femme secrétaire générale du Quai d'Orsay. Donc je vous le dis franchement, je ne pensais jamais voir ça non plus. Donc il y a vraiment un effort constant. Je veux dire, le Quai d'Orsay d'aujourd'hui, il y a tout un groupe de jeunes diplomates, de jeunes femmes diplomates, qui ont créé Femmes et Diplomatie, qui sont sur les réseaux sociaux et qui jouent un vrai lobbying, qui sont vraiment une activité de pression. Ça me fait très plaisir. Ce que je vois me fait plaisir.
La féminisation des mots, c'est important ?
C'est très important. Je ne pensais pas, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, que la féminisation des mots était aussi importante. Franchement, nous étions dans l'urgence de l'avortement, nous ne pensions pas encore aux autres sujets. Ce n'était pas une priorité non plus de Simone de Beauvoir à l'époque. Mais maintenant, je le ressens de plus en plus que c'est très important. Et plus les gens sont conservateurs, plus ils masculinisent les mots. Je veux dire par là que ne pas citer le féminin, c'est rendre invisible la moitié de la population. Quand on dit, par exemple, je ne supporte pas de recevoir des mails, chers tous. Non, il y a aussi chers toutes. Je veux dire par là que nous sommes des femmes, nous existons. Et si nous sommes dans tous, nous savons bien que nous ne sommes pas des hommes. On nous le rappelle tous les jours. Il suffit de sortir dans la rue pour voir comment on nous traite, pour savoir que nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des femmes. Eh bien, nous sommes la moitié de l'humanité, nous ne sommes pas une minorité.
Je ne sais pas si vous êtes lectrice de romans, mais le prix Nobel à Annie Arnaud, autrice notamment de l'événement, sur
oui,
un avortement.
Oui, c'est très bien ce qu'elle a écrit. Je pense, alors, Annie Arnaud a eu le prix Nobel de littérature que devait avoir Simone de Beauvoir en 75, car le jury Nobel l'a appelée pour lui demander si elle l'accepterait, Sartre l'ayant refusé quelques années auparavant. Elle a dit « je l'accepterai ». Mais comme c'était des hommes qui dirigeaient le comité Nobel, ils ont dit « ah non, on ne va pas lui donner le prix Nobel de littérature en 75 parce que c'est l'année internationale des femmes ». La bonne excuse, elle a vécu 11 ans de plus, elle ne l'a pas eu. Annie Arnaud, c'est la revanche du prix Nobel non attribué à Simone de Beauvoir en 75. Aucun journaliste ne l'a repris, moi je le dis. Je suis très heureuse pour Annie Arnaud, mais j'aurais aimé qu'elle dise un mot sur Simone de Beauvoir, ce qu'elle n'a pas fait.
Claudie Monteil, vous racontez dans vos lettres à Simone de Beauvoir sur les femmes aujourd'hui que quand vous avez passé le cap des 60 ans, elle avait cet âge-là quand vous l'avez rencontrée, vous en aviez 20, elle en avait 62.
Ans quand je l'ai rencontrée, donc j'ai commencé à écrire Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui, 2 ans avant.
Voilà. Et vous racontez que quand vous avez passé le cap des 60 ans, vous avez fait un malaise. Oui. Comme si en atteignant son âge, vous l'enterriez pour de bon.
Oui.
Ça vous émeut.
Oui. Je ne supporte pas sa mort. Et je ne supporte pas le fait qu'on ne parle pas assez d'elle sur son engagement féministe. Je veux dire par là que le film « Les filles du Plessis », je m'entendais très bien avec la réalisatrice, elle a été très aimable, elle cite un de mes livres puisqu'elle s'est inspirée d'un de mes ouvrages et elle a été absolument charmante. Je lui ai dit après, mais pourquoi avez-vous enlevé le personnage de Simone de Beauvoir dans l'occupation du Plessis-Robinson ? Elle m'a dit parce que Simone de Beauvoir est une trop forte personnalité et que je voulais montrer l'action des filles du Plessis. Partout, Simone de Beauvoir, dans son action, son militantisme de vie quotidienne, son dévouement, elle est gommée. Nous n'aurions jamais pu réussir ce que nous avons réussi s'il n'y avait pas eu Simone de Beauvoir. Qui est-ce qui nous amenait les journalistes ? C'était pas nous, c'était elle. Qui est-ce qui nous amenait les informations dans les médias alors qu'il n'y a pas de réseaux sociaux ? C'est elle. Elle a été pas seulement une écrivaine, elle a été une militante jusqu'à son dernier souffle en 86 quand elle pouvait à peine marcher. C'est une héroïne, c'est une icône qui mérite beaucoup plus de place qu'aujourd'hui.
Et en même temps, vous, quand vous étiez aux Nations Unies, où vous avez travaillé avec l'UNICEF autour des droits des enfants et des femmes en difficulté, Claudine Monteil, bah vous avez d'une certaine façon perpétué, dans vos combats de tous les jours, vous continuez l'œuvre de Simone de Beauvoir. Mais ce poste-là rejoignait toute votre histoire, toute son histoire, toute l'histoire des femmes et des mouvements féministes. Vous vous souvenez que la première fois que vous avez pris la parole sur ces questions aux Nations Unies, vous sentiez tous les fantômes du combat des femmes, du combat pour les droits des femmes et des enfants qui vous portaient. Et ce qui me fait penser que, dans Mémoire d'une jeune fille rebelle, vous racontez qu'un jour de 1975, vous avez chuchoté à une amie du MLF « Peut-être me dirai-je un jour que mon passage sur Terre n'a pas été complètement inutile. » Vous pouvez le dire encore aujourd'hui.
Oui, parce que c'est une question que quand même je me pose encore, puisque je continue à militer. C'est tant que j'ai la force physique et la force intellectuelle. Je lutterai parce que je veux pouvoir me dire est-ce que mon passage sur Terre n'a pas été totalement inutile ? Et dans ce cas-là, je reviens au mouvement féministe et je reviens aux années du MLF.
Et peut-être à Simone de Beauvoir.
Et à Simone de Beauvoir.
Vous concluez Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui, c'était en 2011. Reposez en paix dans ce cher cimetière Montparnasse où tant d'anonymes vous rendent hommage. La jeunesse des 5 continents prend le relais. Nous lui souhaitons d'avoir la force de continuer notre chemin de libération en 2023. Vous confirmez ces propos ?
Je confirme, Caroline.
Merci, Claudine Monteil.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Julien Girard, réalisation Séverine Cassard. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.